Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
Radio Rosana Piperino
que se reproduce esto en la radio.
France Inter. Le 18-20.
Quand j'ai marqué le premier but, j'étais heureuse d'ouvrir le score, vous imaginez? Et les gens criaient « Argentina, Argentina !»
Et ça se passe en 1971. Cette anecdote, figurez-vous, première Coupe du Monde de foot non officielle. Les vrais pionnières du foot féminin, nous sommes en Argentine, au pays de Maradona, où comment la lutte pour jouer au foot et la lutte féministe marchent ensemble. C'est le cas par exemple dans les manifestations pro-avortement, et ce sera l'escale reportage ce soir dans Un jour dans le monde. Soléra Taré, Amélie Perrier, vous l'avez entendu, en Birmanie, aux États-Unis, au Cameroun, 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, comme tous les jeudis avec Angélique Boin, et le retour des trains de nuit pour ne pas prendre les avions énergivores. Et puis 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four, où comment ça n'est pas seulement Trump, ce sont les États-Unis et pas depuis hier seulement qui s'éloignent de l'Europe, en tout cas trop facile de tout mettre sur le dos du président américain. On y vient dans un instant. Avant cela, nous allons un peu partout, justement, et balle au pied, le monde est vaste, on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
À la veille donc de l'ouverture de la Coupe du Monde de foot, la Coupe du Monde féminine évidemment, on a les yeux sur notre équipe de France, on a bien raison, mais aussi sur les autres, peut-être les moins bien loties parfois, celles qui ne sont pas forcément à la Coupe du Monde cette fois-ci, qui y seront la prochaine fois, mais là où jouer au foot de manière générale est presque un acte politique en soi, en fait, et probablement un vrai vecteur d'émancipation. Bonsoir à nos deux invités. Bonsoir à Aurélie Clément-Terroïs d'abord. Vous êtes
Bonsoir.
Commissaire de l'exposition Le foot et le monde arabe. Ça se passe à l'Institut du Monde Arabe. Et bonsoir Marie-Cécile Nave.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de l'Observatoire du genre et géopolitique, chercheuse à l'IRIS, vice-présidente du think tank Sport et Citoyenneté. Et vous avez notamment écrit « Le sport, outil d'émancipation des filles et des femmes à travers le monde ». Donc on est un peu pile dans notre sujet, c'est publié chez Sport et Citoyenneté. Un mot d'abord pour commencer là-dessus, Coupe du Monde féminine, la plus médiatisée peut-être quand même, en tout cas plus que la dernière. C'est au moins une bonne nouvelle. Il y a de la visibilité cette fois, Marie-Cécile Nave, par rapport aux précédentes ?
Alors, il y avait déjà une grosse visibilité pour la dernière, puisque la dernière et celle encore d'avant avaient battu des records d'audience télévisuelle, ce qui avait un peu sidéré un certain nombre d'acteurs du foot, et notamment chez les sponsors et chez les médias. Et puis effectivement, pour la première fois, elle est diffusée sur les grandes chaînes de télévision françaises que je ne citerai pas ici, mais vous voyez de qui je veux parler.
Ouais.
Et oui, c'est la marque d'une reconnaissance de la pratique féminine du football, pas que pour des raisons philanthropiques, hein, parce qu'il y a aussi un marché qui est derrière. Et
qui commence à monter lui aussi, bien sûr. Ouais.
Parce que le foot du côté masculin atteint un peu des niveaux de saturation du côté des sponsors et des équipementiers, donc il faut trouver de nouvelles niches. Et puis comme il y a un engouement de la part du public, et pas que chez les femmes, eh bien tout le monde a y gagné. Donc
mais c'est pas forcément un gros mot d'ailleurs, qu'il y ait des enjeux financiers aussi, parce que c'est ce qui fait c'est aussi ça qui fait grimper le sport, Marie-Cécile Nave. Non, quand les enjeux financiers commence à être là, au fond.
Oui, absolument, bien sûr. C'est un secteur qui marche beaucoup avec l'argent privé, on le sait, avec parfois un certain nombre de dérives que tout le monde a en tête. C'est un peu le nerf de la guerre, surtout quand on voit certains débats sur le désinvestissement relatif des pouvoirs publics dans le sport. Et la visibilité, la médiatisation, c'est très très important sur la prise d'exemple chez les enfants. Les enfants, ils ont besoin d'exemples, ils ont besoin de s'identifier à des idoles pour pouvoir faire du sport et se sentir capable, légitime, etc. Ça existe beaucoup chez les garçons, bien sûr, chez les filles, c'est important.
Le jour où il y en a un qui citera une joueuse, on aura fait un chemin considérable, en fait. C'est peut-être vrai, d'ailleurs, dans certains sports. C'est vrai dans le tennis, c'est pas encore vrai dans le foot, mais après tout, chaque chose en son temps. Aurélie Clément-Terroïs, dans l'exposition de Lima, de l'Institut du Monde Arabe, il y a deux pays sur lesquels on insiste et qui sont vraiment très emblématiques. La Palestine, la Jordanie, par exemple. Comment on fait pour être palestinienne et joueuse de foot? C'est déjà compliqué pour les garçons. Comment ça marche pour les filles dans un pays pareil?
C'est encore plus compliqué, effectivement, parce que déjà jouer au foot, c'est compliqué en Palestine. Il y a peu d'équipement, il y a beaucoup de difficultés pour se déplacer, pour aller faire des rencontres, tout simplement aller jouer à l'extérieur. Donc ça, c'est des vrais freins. Et puis, ben, pour les femmes, pour les jeunes femmes, c'est aussi très compliqué parce que il n'y a pas forcément d'équipe pour elles. Il faut trouver des entraîneurs, il faut trouver, encore une fois, des lieux de pratique parce qu'en fait, ça commence par ça. C'est-à-dire que l'envie de ces jeunes filles, souvent, de jouer au foot, c'est arriver à être plusieurs, constituer une équipe, trouver un entraîneur et tout ça, aujourd'hui, ça reste compliqué.
Comment ça se fait qu'en Palestine, par exemple, les choses ont réussi à éclore? Parce qu'en général, il faut une personne derrière, en fait. Il faut juste ça pour que ça marche, non?
Oui,
ou pour que ça commence, en fait.
Oui, oui, il y a effectivement derrière, souvent des personnes, une personne, deux personnes qui, à un moment donné, sont le déclencheur. En Palestine, il y a Onit Alger, qui est une joueuse palestinienne, qui aujourd'hui, d'ailleurs, travaille pour la FIFA et pour la reconnaissance aussi de ce football féminin, qui a ouvert, j'ai envie de dire, les barrières, qui a réussi à faire entendre sa voix sur le terrain, en politique aussi, parce qu'effectivement, tout ça, ce sont des décisions politiques. Donc ça, c'est très important. Et puis, dans l'exposition, on parle d'un autre exemple, effectivement, qui est l'exemple jordanien, où là aussi, c'est la volonté d'un homme, le prince Ali, qui dirige la fédération de football jordanien.
La volonté d'un homme ou de sa femme? Non, mais sérieusement,
en couple, ouais, c'est beau aussi. En tout cas, c'est une décision politique clairement qui aujourd'hui permet à des jeunes femmes de pratiquer le football puisque ils ont mis en place ou en tout cas ils tentent et aujourd'hui ils ont vraiment des équipes, des entraîneurs, des lieux de pratique qui permettent à des jeunes filles de pratiquer le football.
Il y a un match qui est resté, qui est devenu presque emblématique en fait, qui commence à avoir quelques années, c'était en 2009, mais 14 000 personnes pour voir jouer les Palestiniennes contre les Jordaniennes, si je ne m'abuse, c'était quelque chose.
Oui.
Et c'est très rare, effectivement.
Mais c'est très très rare parce qu'effectivement, le football féminin dans le monde arabe n'est pas très développé, il existe, mais bon, il reste encore en marge. Et on voit qu'il y a un vrai engouement et qu'il y a non seulement des jeunes femmes qui ont envie de pratiquer du sport, mais qu'il y a aussi des supportrices dans les stades. Et c'est un ensemble qui se développe.
Ouais. Alors ça, c'est des équipes qu'on ne voit pas à la Coupe du Monde là, évidemment, parce que c'est des équipes qui ne sont pas qualifiées, peu importe. En fait, est-ce qu'il y a aujourd'hui quand même, Marie-Cécile Nave, encore des pays où les femmes n'ont pas le droit de jouer au foot? Enfin, je pense à certains pays où elles ont tout juste le droit d'entrer dans les stades. C'est le cas en Arabie Saoudite. Ça vient de se produire. Je suis pas sûre qu'elles soient très nombreuses. Il reste encore des pays aujourd'hui où on est une femme, on joue pas au foot ou pas?
Oui, il y a beaucoup de pays où l'accès au sport n'est pas garanti pour les femmes, soit dans les coutumes, soit dans les textes. Et même si parfois les textes autorisent la pratique du sport, on rappelle que c'est un droit qui est garanti par, qui normalement est garanti par l'UNESCO depuis 1978. Mais dans les faits, même si les lois ne parlent pas de discrimination, le poids des coutumes et des habitudes fait que c'est trop compliqué.
Donc on parle d'Iran, on parle d'Afghanistan, on parle de ça? Parce que des Iraniennes voilées jouer en foot, moi j'ai vu des images, est-ce que c'est des choses qui sont uniquement destinées aux médias, en gros, pour qu'on voit cette image-là, ou ça existe vraiment?
C'est intéressant parce qu'effectivement, dans un certain nombre de pays, il y a un enjeu de soft power, d'image à l'international.
Exactement.
C'est le cas de l'Arabie Saoudite, par exemple, qui, voyant un peu ce qui se passe au Qatar, se dit, tiens, on pourrait aussi, nous, utiliser le sport et les questions de faire des progrès en termes d'égalité de genre. Malheureusement, ça reste pour l'instant ce qu'on appelle un peu du pinkwashing ou du gender washing. On voit bien que même s'il y a un message un peu marketing politique sur l'égalité femmes-hommes, la marche vers l'égalité femmes-hommes dans le sport, on en est très très loin.
Mais est-ce que je me suis trompée? J'ai cru lire Aurélie Clément-Terruis dans le catalogue de Lima que c'est au Bahreïn qui avait eu l'une des premières équipes de foot, donc comme quoi c'est même assez étonnant de se dire que c'est là que ça commence en fait.
Oui,
enfin alors, en tout cas là dans les pays arabes, hein, entendons-nous bien.
Effectivement, dans le monde arabe, c'est une des premières officielles. Après, c'est pas la première dans le sens où il y a des pays qui ont traditionnellement plus une histoire avec le football, notamment tous les pays du Maghreb, l'Égypte, où voilà, il y a cette tradition du football. Alors pour les hommes, effectivement, du coup, les femmes s'y sont mises plus facilement et depuis beaucoup plus longtemps. Et les questions autour du football féminin ne sont pas du tout les mêmes dans cette partie du monde arabe que quand on va vers les pays du Golfe, où effectivement, on va dire que c'est extrêmement récent cet engouement pour le football. Et effectivement, ça fait partie aussi d'une politique de soft power. C'est ce qu'on explique dans l'exposition. Aujourd'hui, notamment, la position du Qatar là-dessus est très claire. Mais il y a des initiatives, encore une fois, parfois très, très ciblées, très petites, qui existent autour du football féminin dans le monde arabe et qu'il faut encourager et saluer aujourd'hui.
Est-ce qu'on dit, parce que je voudrais qu'on revienne en Europe, je voudrais vous faire écouter quelque chose, est-ce que l'émancipation des femmes dans ces pays-là passe par le foot ou est-ce que c'est parce qu'il y a un début d'émancipation qu'on se met à jouer au foot, Marie-Cécile Naff? Pardon de vous demander qui a commencé de la poule et de l'œuf.
Non, mais c'est un sujet vraiment très intéressant parce il y a deux dynamiques qui sont quand même systémiques l'une avec l'autre. L'accès au sport de haut niveau et l'accès à l'activité physique et sportive au quotidien d'une part, et puis utiliser le sport comme un facilitateur dans des politiques plus transversales de lutte contre les violences sexuelles, de lutte contre les mutilations génitales, de retour à l'éducation et de faire sortir les filles du foyer, faire en sorte qu'on lutte aussi contre les mariages précoces, le fait de les aider à sortir de la pauvreté, tout ce qu'on appelle en anglais un empowerment, qui est un mot qui peut-être renvoie dans l'imaginaire collectif à la volonté individuelle et qui devrait être aussi entendu dans un sens de lutter contre les structures sociales, lutter contre le patriarcat de manière collective. Donc il y a ce double aspect qui est intéressant, accès au sport d'une part et utiliser le sport comme presque un prétexte pour faciliter les rapports sociaux et changer les mentalités en associant évidemment les familles, les communautés. Et il y a beaucoup d'expériences intéressantes de par le monde à ce sujet-là.
Alors c'est intéressant que dans ces pays-là, ce soit dans ce sens-là que soit pris à la fois le sport et le foot. Ce qui est intéressant, c'est que chez nous, en Europe, on en est peut-être au stade d'après. On est en train de parler d'égalité, mais pas partout. Je voudrais vous faire écouter ce que vous avez peut-être vu déjà, ce clip qu'ont sorti les Allemandes, les joueuses allemandes, qui sont les plus titrées. On l'a déjà entendu dans Un jour dans le monde, c'était dans la semaine avec Julia Foyce, mais je voudrais vraiment vous le faire réentendre. Les Allemandes sont les plus titrées. Elles sont évidemment à la Coupe du Monde. Elles sont ravies d'y être. Elles ont même une très grande chance pour le titre. Mais voici ce qu'on entend chez elles.
Nous jouons pour un pays qui ne connaît même pas nos noms. Nous avons été 3 fois championnes d'Europe, d'accord? Mais pour notre premier titre, nous avons été invités à goûter toutes sortes de thés. Alors nous avons lutté contre tous les préjugés. Les femmes sont juste bonnes à faire des enfants, à faire la lessive. C'est comme regarder jouer des amateurs au ralenti. Et vous savez quoi?
Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze.
Wie bitte?
Allez, on n'avait pas traduit la fin, peu importe. Enfin, il y a un jeu de mots sur une histoire de balle que je vais vous épargner. Néanmoins, et c'est ça qui est intéressant, on a à côté Anita Hegerberg, qui est ballon d'or, qui est norvégienne, et qui dit « moi, j'y vais pas à cette Coupe du Monde, parce que l'égalité homme-femme, on n'y est pas, parce que du coup, je ne m'y retrouve pas ». Ça aussi, c'est intéressant, Marie-Cécile Naff, de voir comment nos sociétés, à nous, qui sommes donc plus avancées en matière d'égalité, avons un coup à jouer, en fait, autour de cette Coupe du Monde. Les Américaines le font aussi d'ailleurs.
J'en suis convaincue et c'est des nouvelles générations aussi qui finalement n'acceptent plus un certain nombre de stéréotypes, de discriminations, de regards différents sur elles par rapport au football masculin qui jusqu'ici pouvait passer comme étant traditionnel, presque normal. Et la décision d'Ada Hegerberg est extrêmement courageuse et il y a une interview très intéressante d'elle dans Le Monde aujourd'hui où elle explique ses motivations. Et aux États-Unis, c'est très intéressant puisque aux États-Unis, le soccer, c'est un sport qui est beaucoup plus pratiqué.
C'est un sport de filles, en fait.
Voilà, parce que les hommes ont... Enfin, on pratique plus ce que nous, on appelle football américain. Et plusieurs joueuses attaquent leur fédération en justice pour discrimination sur les salaires, les primes et les conditions de pratique.
Alors, et on fait la une de Time Magazine. Ça dit des choses aussi. Hein,
voilà, Alex Morgan qui fait la une de Time Magazine avec ce titre The Equalizer, l'égalisatrice. Et en fait, la fédération dit « oui, mais c'est parce que vous rapportez moins d'argent ». Mais en fait, c'est faux. Si les filles sont en train de faire le calcul pour montrer que la rentabilité économique, ça peut plus être un argument, surtout quand vous avez une équipe qui gagne, qui est la tenante du titre, et puis l'équipe masculine qui n'est pas qualifiée pour le dernier mondial.
Alors c'est vrai aussi, et en même temps c'est intéressant parce que l'argument de l'égalité, mais attendez, nous on n'est pas encore assez titrés, ou alors on rapporte moins d'argent, c'est un argument qui vient jusqu'à chez nous, c'est ce qu'on entend dans l'équipe de France aussi beaucoup quand même. Donc il y a des choses qui sont quand même très féminines, il y a des choses qui sont quand même très ancrées là-dedans.
Oui, je trouve que les Françaises sont en retard, que les Françaises on attendrait peut-être des joueuses françaises qu'elles soient un peu plus militantes
un peu politique.
Je les trouve un peu sages par rapport à d'autres équipes.
Est-ce que vous avez le sentiment que les fédérations, que ce soit la nôtre ou les autres, en fait, est-ce que les fédérations, on est obligé de les pousser, en fait, y compris d'ailleurs la très puissante UEFA, donc chez les européennes, est-ce qu'on est obligé de les pousser très concrètement, ou est-ce que très naturellement, doucement, elles s'y mettent aussi ?
Naturellement, non, mais doucement, oui. La FIFA est assez active, elle est et l'UEFA aussi hein, dans le monde, et elles soutiennent d'ailleurs des actions en faveur du football et du féminin dans un certain nombre de pays, chez les enfants en particulier. La Fédération française de football, il faut lui reconnaître un certain volontarisme depuis quelques années, mais enfin c'est aussi parce que il y a une, comme je le disais, une acceptation sociale non seulement du sexisme, mais aussi des habitudes genrées, qui c'est au-delà du sexisme, qui est beaucoup plus faible qu'il y a quelques années. Et puis surtout, ce qu'on attend, c'est de voir ce qui va vraiment rester après la Coupe du Monde, parce qu'on a des promesses, on a des slogans très forts sur l'égalité, mais le sport, c'est pas une formule magique s'il n'y a pas des politiques d'accompagnement volontaristes et qui sont évaluées. En utilisant notamment les outils de la recherche universitaire, eh bien, il ne se passera rien. Ce sera un effet de soufflet et ensuite on retombera à la situation d'avant.
Merci beaucoup Marie-Cécile Nave, Aurélie Clément-Terruis. Tout ce qu'on souhaite aux femmes dont vous parlez dans l'exposition du monde arabe, c'est d'arriver à voir ce genre de problématiques aussi. En fait, donc de parler d'égalité, de parler des fédérations. Pour l'instant, on n'y est pas, mais il y a des choses qui avancent. Foot et monde arabe, donc si vous êtes parisien, pourquoi pas. Ouais. Merci beaucoup.
Merci
à tous d'avoir participé à Un jour dans le monde. Vous allez voir qu'on ne va pas tout à fait quitter le football.
France Inter, Fabienne Saint-Hès. Un jour dans le monde.
Parce que la suite, vraiment, je vous la conseille, nous laisse dans l'ambiance. Vous connaissez peut-être l'histoire de cette première Coupe du Monde de foot qui date d'août, au féminin, qui date d'août 71. Les Argentines vont vous la raconter dans l'Escale Reportage au pays de Maradona. Donc, foot et lutte féministe ont toujours fait combat commun. Et les filles, figurez-vous, ne marquent pas avec les mains. Voilà, c'est dit. Sous les radars et Amélie Perrier qui vous donnera envie de garder les petits mots dans les cookies chinois, là, vous savez, ceux des restaurants. L'Europe, on l'aime ou on la quitte, comme tous les jeudis, ou comment on cherche à réhabiliter le train de nuit, nous racontera Angélique Boin pour lutter contre la pollution des avions. Et puis le monde à l'envers, bonsoir Jean-Marc Faux.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Alors, on ne parle pas de foot là, hein, pas du tout même. On parle de Donald Trump qui cherche à quitter l'Europe, mais au fond il n'y a pas que lui. Il y a bien longtemps qu'on a déserté l'Europe chez les Américains.
Oui, c'est trop facile de lui imputer la responsabilité de la relation dégradée entre les États-Unis et l'Europe. Le mal est plus profond que les mouvements d'humeur de l'homme à la mèche.
Allez, le tour de la planète n'est pas fini. Restez avec nous. Il passe par les États-Unis, par Chicago. Andrew Bird's Sisyphus est dans la playlist de France Inter.
Pause. Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this majest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long.
recalcitrant and taciturn. You know I'd rather turn and burn a scale this edifice, yeah.
Le Sisyphe d'Andrew Birds sur France Inter. Sous les radars, c'est maintenant.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et Amélie Perrier, des moines bouddhistes en Birmanie qui veulent démentir les plus extrémistes d'entre eux.
Car depuis la crise des Rohingyas, on le sait, certains bouddhistes se livrent à des attaques racistes, islamophobes, contre cette minorité musulmane, obligée de fuir par centaines de milliers au Bangladesh voisin. L'une des figures de ce nationalisme bouddhiste, c'est ce moine, Viratu, surnommé le Ben Laden bouddhiste.
Il y a dans notre pays deux problèmes prioritaires qui nous préoccupent énormément. Le premier, c'est la transition démocratique. Le second, c'est la propagation de l'islam. Vous savez, je vais vous dire, les hindouistes sont courtois, les chrétiens sont très respectueux, mais les musulmans, eux, sont pleins de haine.
Voilà, c'est bien un moine qui parle ici. Il appelle à la haine, aux violences, au lynchage. Il refuse d'utiliser le mot Rohingya. Il préfère parler de terroristes musulmans. Il soutient les exactions de l'armée. Au passage, Barbette Schroeder en a fait un film, Le Vénérable W. Et il y a quelques jours, un mandat d'arrêt pour incitation à la haine a été émis contre Viratu. Mais il reste très écouté, ce moine. Ainsi, il y a quelques semaines, en plein ramadan, des nationalistes ont interrompu la prière dans plusieurs endroits de Rangoon. Alors, en réaction, des activistes bouddhistes modérés ont décidé, eux, de se rassembler à la sortie des mosquées pour distribuer des roses blanches pendant le ramadan. Une centaine de volontaires donc ont distribué des fleurs tout au long du mois de jeûne sur une vingtaine de sites partout dans le pays.
Amélie, eux aussi vivent dans un pays où ils sont minoritaires et maltraités.
Mais là, c'est plus une question de langue que de religion. Les anglophones au Cameroun, c'est la crise humanitaire la plus négligée au monde, selon une ONG norvégienne, NRC, présente là-bas depuis 2 ans. La communauté internationale demeure passive, tandis que la crise se poursuit et qu'elle se rapproche dangereusement d'une guerre sans merci. Ces régions anglophones, ce sont celles à l'ouest du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria, pris dans les tumultes de la colonisation et des déclarations d'indépendance. Aujourd'hui, ces régions à l'ouest représentent 20% quand même des 22 millions de Camerounais. L'armée considère là aussi les séparatistes comme des terroristes. Chaque camp s'est radicalisé à coups d'enlèvements, de meurtres, d'incendies. Selon l'ONU, plus d'un demi-million de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer pour fuir les violences. L'an dernier, quand le président Paul Biya a été réélu pour un 7e mandat au Cameroun, voilà ce qu'il promettait lors de son investiture.
Je veux souligner que je me suis attentivement penché sur les frustrations et les aspirations de la grande majorité de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un bon nombre de réponses à ces préoccupations et à ces aspirations sera apporté dans le cadre de l'accélération du processus de décentralisation en cours.
Et comme on peut s'en douter, 7 mois plus tard, rien n'a avancé, ou presque. Le chef séparatiste Julius Ayuk Tabe, emprisonné à Yaoundé pour terrorisme et sécession, se dit prêt à participer à des pourparlers, mais seulement à l'étranger. Les ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, accusent de leur côté le Conseil de sécurité de l'ONU de garder un silence coupable sur cette région du monde. Dans un rapport présenté cette semaine par le secrétaire général Antonio Guterres, on note que les violences et les abus sont perpétrés tant par les forces gouvernementales que par les groupes armés séparatistes.
Allez, Amélie, pour terminer un peu plus légèrement, voici une belle histoire de chance et de famille.
Ah oui, vous connaissez les fortune cookies, ben Fabienne, oui. Ces biscuits que l'on distribue souvent au resto chinois. Vous les cassez à l'intérieur, une maxime, une pensée, un horoscope et quelques chiffres. Oui, ces numéros, Charles W. Jackson les avait notés après un dîner avec sa petite fille. Et depuis 2 ans, il jouait toujours ces numéros-là. Et là, bingo, il a décroché le gros lot. 345 millions de dollars. Écoutez, ce retraité heureux en Caroline du Nord.
Bon,
il a un accent. Hein. Je ne sais pas quoi faire de la majorité de toute cette somme. Là, j'espère que je ne vais pas changer trop et je vais essayer de ne pas changer ma vie. Et comme je dis, je continuerai à porter des jeans. Alors peut-être des jeans un peu plus neufs.
Oui, mais il peut s'acheter même une usine, je pense, voir le pays qui fabrique les jeans. Allez-y.
Effectivement, Charles avait le choix en fait, entre recevoir ses 345 millions en versement étalé sur 30 ans ou toucher tout de suite une somme un peu réduite. Alors Charles, il a 66 ans. Il a préféré empocher dès maintenant 223 millions de dollars.
C'est bizarre, ce système, hein. La moitié ou
ouais,
un peu plus.
Ouais. Il est joueur, mais prudent quand même.
À quel âge il a ?
66 ans.
Bah oui,
66 ouais. Plus 30, ouais, voilà. 96. Bon, on est joueur, mais pas trop. Voilà.
Allez, Amélie Perrier, allez jouer pour nous. Puis non, parce que ça marche jamais cette
histoire. Non, ça marche pas.
C'est que dans les histoires de radio. Allez, à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Allez, comme promis, c'est en Argentine que je vous emmène dans l'escale reportage ce soir. L'Argentine balle au pied, l'Argentine de Maradona, mais où les footballeuses, elles, donc, ne marquent pas avec la main dans ce pays depuis 4 ans maintenant. Vous savez aussi que les femmes battent le pavé pour la dépénalisation de l'avortement. Et pourquoi on parle des deux à la fois? Eh bien, parce que ces deux combats-là sont liés. Georges Quirino, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Georges, l'Argentine qui va disputer le mondial féminin, qui débute en France demain, comme tout le monde, avec des footballeuses dans un milieu ultra-machiste qui se sont battues pour obtenir enfin des droits, pour obtenir un statut professionnel, des joueuses qui veulent se faire une place donc chez Maradona, et notamment en faisant connaître leur histoire. Et je vous conseille beaucoup d'attention, c'est une sacrée histoire.
Alors quand on parle d'histoire, de football et d'Argentine, ce qui vient tout de suite à l'esprit, fatalement, c'est ça. Le commentaire du but du siècle de Diego Maradona face à l'Angleterre, mondial 86, quart de finale, Mexique, Stade Azteca, plus de 110 000 spectateurs, le numéro 10 argentin, grâce aussi à sa légendaire main de Dieu, permet à l'Albi Céleste de battre les Anglais 2-1. Oui, mais voilà, 15 ans avant, des femmes l'avaient déjà fait au même endroit.
Je m'appelle Lucila Sandoval. Je suis ancienne gardienne de but. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai créé une association qui s'appelle les Pionnières du football féminin en Argentine pour raconter l'histoire de ce sport. Et surtout, celle du Mondial 1971, où pour la première fois, une équipe argentine féminine a participé. Et à partir de ça, j'ai retrouvé toute l'histoire.
Une histoire que même la Fédération Argentine de Football ne connaissait pas il y a 2 ans, le Mondial Féminin 1971, non reconnu par la FIFA, il se déroule au Mexique. 17 filles composent cette première sélection argentine, découverte par Lucila Sandoval, 49 ans, grâce à une photo en noir et blanc dénichée il y a une vingtaine d'années. Sa volonté, montrer à travers ces femmes qu'il n'y a pas que des hommes qui ont fait le football dans ce pays. Manifestation pro-avortement devant le Congrès argentin la semaine dernière, au milieu de la foule, un terrain improvisé de football dit féministe. La star ici, c'est Betty Garcia, 77 ans, attaquante retrouvée de l'équipe de 1971. Elle raconte l'épopée déjà au Stade Azteca.
Pour nous, c'était génial parce que c'était une expérience incroyable. On n'avait rien, même pas d'entraîneur. On avait un maillot qui n'a tenu qu'un match. On n'avait pas de chaussures de foot, on ne savait pas qu'il en fallait. On n'avait pas d'argent non plus, mais l'organisation nous a tout payé. C'était grandiose. Il y avait 110 000 personnes. Et avec tout ce bruit, c'était dingue. Et personnellement, moi, je n'écoute pas le public, je joue. Si le stade est plein ou vide, je ne fais pas attention. Je reste concentré sur le jeu.
Concentré pour affronter au deuxième match l'Angleterre, 15 ans avant Maradona dans ce même stade, l'Argentine va s'imposer 4-1 ce 21 août 1971 grâce à un quadruplé de la numéro 10. Cheveux blancs, toute fine, Elba Selva, 74 ans, jongle, n'a rien perdu de sa technique balle au pied. L'ancienne milieu de terrain n'a jamais arrêté le sport qu'elle pratique toujours dans ce gymnase d'une petite ville à 60 km à l'ouest de Buenos Aires. Devant ses amis, qui ne savaient rien de ses exploits il y a encore quelques mois, Elba Selva raconte ses 4 buts contre les Anglais, 2 de plus que Maradona, ça l'amuse, et sans l'aide de la main de Dieu.
Non, aucun but avec la main, tous avec les pieds. Quand j'ai marqué le premier but, j'étais heureuse d'ouvrir le score, vous imaginez? Mais à ce moment-là, j'ai regardé les tribunes et les gens criaient « Argentina, Argentina !» Ça m'a donné la chair de poule de voir que tous nous supportaient.
Raconte-lui le chant qu'il y avait pour toi au stade. Et chante-le.
Applaudan, applaudan, no dejen de aplaudir. Los goles del Baselva que ya van a venir. Tampoco te lo hubiera dicho yo, ¿viste? Ellos me llaman.
Elle est un peu mal à l'aise avec cette nouvelle notoriété après avoir été inconnue pendant 48 ans, car à leur retour du mondial, où les Argentines terminent 3e, personne ne les attend à l'aéroport. Leur histoire, non suivie par les médias, va rester invisible jusqu'au 23 avril dernier.
Hagamos un balance del pasado como socios arruinados.
La voix de Marta Soler, gardienne de but de la sélection de l'époque, résonne dans le Sénat argentin. La nation reconnaît enfin ce jour-là l'histoire de ces pionnières, de ce fameux 21 août 71, qu'elles espèrent désormais journée nationale de la footballeuse. 8 des 10 joueuses encore vivantes sont présentes, émues que des femmes aient enfin leur place dans les livres de football. L'ancienne attaquante Betty Garcia.
Mais depuis le début, c'était une lutte féministe. Quand les hommes nous insultaient, quand on a commencé à jouer, ils ne nous laissaient pas tranquilles parce que le patriarcat était pire à cette époque. Mais nous, en rentrant sur un terrain de foot, on leur montrait une opposition. Certaines auraient pu arrêter de jouer, mais pas nous. Nous, on a continué à jouer. Et des filles ont continué après nous.
Les footballeuses argentines portées par le mouvement féministe dans le pays ont cette année enfin obtenu un statut professionnel, des droits, des moyens, parfois après avoir eu recours à la grève comme l'a fait la sélection actuelle. Des joueuses qui, lors du deuxième match au mondial en France, vont affronter l'Angleterre. Hasard de l'histoire, la gardienne de but Gabby Garton pensera-t-elle aux filles de 71 ?
Bien sûr qu'on va puiser de la force dans cette histoire. Et bon, on espère que dans 50 ans, les joueuses se diront « Souvenez-vous ce qui s'est passé en 2019 et regardez où nous en sommes aujourd'hui grâce à tout le mouvement. Je pense que ce qui se passe va apporter quelque chose de très important pour le futur. »
Et pour encourager les Argentines face aux Anglaises le 14 juin au Havre, les 8 pionnières seront présentes au stade. Elba Selva, l'héroïne de 71, leur a même prévu un message.
Mettez toute votre volonté, toute votre rage pour gagner. Pas seulement face aux Anglaises, mais pour tous les matchs. Oui, j'adorerais que ces filles aient la chance de pouvoir gagner.
Formidable histoire que celle des Argentines qu'on retrouvera donc en France avec grand plaisir pour cette Coupe du Monde qui démarre, disons-le encore une fois, demain vendredi et je vous glisse dans l'oreille d'ores et déjà, on parlera de foot féminin chez Claire Servageant demain dans le Téléphone Sonne. Georges Quirino pour le reportage, merci beaucoup.
Je suis venu vous parler de Rose.
France Inter, le 18-20.
Così tanti clandestini in Italia non ci sono mai stati per l'Europe.
Un jour dans le monde.
Génial.
L'Europe, on l'aime ou on la quitte tous les jeudis sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Bonsoir Angélique Boin.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Alors on voyage, mais on voyage en train de nuit chez vous ce soir.
Ah oui, c'est à la une du quotidien belge La Libre. Train de nuit, le bon moyen pour éviter l'avion. Plus d'un tiers des Belges envisageraient de modifier leur façon de partir en vacances, selon le baromètre d'Europe Assistance qui est cité. Et cela afin de réduire leur empreinte écologique. Et parmi les transports alternatifs, eh bien, il y a le train de nuit supprimé ici dans ce pays, en Belgique, il y a déjà 15 ans. Les représentants belges du collectif européen baptisé Back on Track, retour sur les rails, réclament en fait leur remise en service immédiate et la création au niveau européen d'un vaste réseau pour relier les capitales entre elles. Une pétition a même été lancée. Alors en Europe, il en reste des trains de nuit, Fabienne. Mmh. Ce sont les Autrichiens les plus en avance, puisqu'il y a 2 ans, ils ont relancé des lignes, Vienne-Venise par exemple, ou Munich-Rome, 39 euros le premier prix, mais ça c'est comme à la SNCF. Hein. Il faut quand même s'accrocher pour trouver ce tarif, il faut partir à des heures insensées. Et ça va de la couchette de base, celle qui se replie, vous savez, au mur, jusqu'à la cabine individuelle avec sa douche. Bref, le train pour concurrencer l'avion qui pollue trop. C'est très tendance en ce moment. Hein. C'est de Suède que vient en partie ce mouvement, le pays de la jeune Greta Thunberg qui avait, rappelez-vous, rejoint le forum de Davos en train 32 heures pour éviter les airs. En Suède, flygskam est une expression qui signifie la honte de prendre l'avion. Mmh. Ce serait même entré dans le vocabulaire national, selon la presse. Et les ventes de tickets Interrail ont explosé depuis un an.
Voilà, un mouvement vraiment à suivre, Angélique. Gare chez vous encore au site de revente de billets de spectacle ou d'événements sportifs.
Oui, c'est le Bureau européen des unions de consommateurs qui nous l'apprend, le BUC. Alors, je vous rappelle qu'on est au royaume des acronymes ici, ça me fait marrer toutes les semaines. C'est donc le BUC. Le BUC réunit 45 associations nationales de consommateurs en Europe. Il lance aujourd'hui une campagne avec des vidéos pour mettre en garde les naïfs que nous sommes, hein, bien souvent. Allez lire, les sites de revente sont de vraies arnaques. Le prix est la plupart du temps gonflé, alors que c'est interdit dans certains pays, comme au Danemark ou en Belgique. Parfois, ce billet ne permet même pas d'entrer dans l'enceinte concernée, car les organismes organisateurs ont lié la place à un nom et ils demandent votre carte d'identité, ou alors ils refusent le principe de la vente tout bonnement si ça apparaît sur le billet et donc vous refoulent. Cette organisation de défense des consommateurs nous apprend aussi que certains sites achètent en masse les billets le jour même de l'ouverture des ventes, souvent avec un système automatisé, ce qui prive le public de billets à son prix d'origine. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de législation européenne à ce sujet et que cela pourrait bien un jour changer.
Allez, Angélique, un dernier mot, parce que c'est vrai qu'on a un tout petit peu lâché l'affaire, nous, de notre côté, mais évidemment pas du vôtre. Nous sommes combien ? 10 jours après les élections européennes, ou à peu près en tout cas. Les élections des groupes politiques, tout ça est encore en cours. Bat son plein, même chez vous.
Oui, ça va plus ou moins vite selon les groupes. Le PPE, la droite arrivée en tête, a réélu hier sans surprise l'Allemand Manfred Weber, président de son groupe. Mais la présidence qu'il vise, vous le savez, c'est toujours celle de la Commission européenne. Les tractations vont vraiment vite et bon train sur ce sujet. Le bras de fer franco-allemand se poursuit. Le Français Michel Barnier est toujours dans la course selon une source bien informée. La France et l'Allemagne pourraient se partager, dit-on, la présidence de la Commission et celle de la Banque Centrale Européenne. Mais il faut compter avec les autres pays, avec les équilibres politiques aussi. Donc 6 dirigeants de l'Union, 2 PPE, 2 sociaux-démocrates et 2 libéraux vont dîner demain et essayer de chercher un compromis. On ne s'attend pas à un non dès demain, mais ça pourrait avancer. Du côté des souverainistes, déconvenu pour l'Italien Salvini et Marine Le Pen, qui espéraient élargir leur cercle et doubler les Verts en nombre d'élus. Cela n'en prend pas le chemin. Le Hongrois Viktor Orban a exclu de voir son parti, le Fidesz, les rejoindre, tout comme Nigel Farage, qui avec son parti du Brexit avait remporté quand même 29 siège. Hier, c'est au tour du PiS, du Parti Nationaliste Polonais, de faire part de ses objections. Le PiS qui aurait pu être un allié de poids avec ses 26 élus, mais qui met en avant une fois encore ses désaccords sur les relations du futur groupe avec les Russes.
Voilà, à suivre. Et grâce à vous, Angélique Boin, merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, en ce jour de célébration des 75 ans du débarquement qu'on a tous suivi toute la journée aujourd'hui, marqué notamment par une rencontre Trump-Macron, c'était ce midi. Chacun voit bien que le président américain tire à boulets rouges sur l'Europe. Et mais vous dites attention à l'illusion, ce n'est pas seulement Trump qui prend ses distances avec l'Europe, ce sont plus largement les États-Unis et c'est parti pour durer. C'est votre Monde à l'envers ce soir.
Ça, c'est très facile de dire que tout ça est la faute de Trump. Ça semble tellement évident que le président américain empoisonne la relation transatlantique. D'abord à cause de ses accès d'humeur, un coup je t'aime, un coup je te déteste. Aujourd'hui à Caen, c'était côté pile. Je cite, nous avons une relation merveilleuse avec Emmanuel Macron. En novembre dernier, c'était côté face. La cote de popularité de Macron est vraiment très très basse. Trump, on le sait, joue comme ça au yo-yo, généralement à coups de tweets assassins, vengeurs et imprévisibles. Ça, c'est pour l'anecdote. Sur le fond, ça va beaucoup plus loin, puisque le président américain ne cesse d'attaquer l'Europe. Il veut taxer les exportations européennes, en particulier les automobiles allemandes, ce qui fait trembler Berlin. Il menace de remettre en cause l'OTAN et sa clause principale, venir en aide à l'un de ses membres s'il est agressé. Il est favorable au Brexit, rêve de voir le très anti-européen Boris Johnson au 10 Downing Street. Et pas seulement parce qu'ils ont la même coiffure, peu ou prou. Il ne supporte pas le multilatéralisme, qui est quand même par définition l'incarnation d'une Europe à 28 membres et de façon systématique qui privilégie les accords ponctuels sur les amitiés de long terme. Donc n'en jetez plus, c'est vrai, Donald Trump porte indéniablement une responsabilité forte dans la dégradation de la relation entre les États-Unis et l'Europe, mais tout ramener à Trump, c'est quand même une façon de se voiler la face.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que le problème, il est bien bien plus profond que ça.
Oui, et on se berce d'illusions un jour comme aujourd'hui, où les célébrations du débarquement sont une occasion rituelle de rappeler avec de belles paroles la longue amitié qui unit les deux rives de l'Atlantique. Bon, le respect du haut vétéran mérite bien qu'on tienne ce discours, mais en fait, tu parles, ça c'était vrai il y a 20 ans. Aujourd'hui, le fait est que ça va mal, et le sujet ce n'est pas seulement Trump, ce sont les États-Unis. Pour le dire autrement, l'erreur c'est de penser que Trump est est une sorte de parenthèse dans la relation entre Washington et les Européens. Se persuader de ça, c'est prendre le risque d'une forme d'aveuglement. Cette divergence, cette séparation des trajectoires, elle est peut-être plus profonde et ancienne, engagée dès les années Bush, il y a près de 20 ans. Pour l'ancien ambassadeur de France à Washington, Gérard Haro, qui vient de partir en retraite, le changement est beaucoup plus structurel. C'est un mouvement de fond qui touche une grande partie des États-Unis. Le choix du repli sur soi, du protectionnisme et donc de la bataille commerciale contre l'Europe, eh bien, une grande partie des Américains y adhèrent. Le sentiment que le véritable enjeu est désormais à l'Est, en Asie, qu'il faut regarder vers la Chine et le Japon, c'était déjà le choix de Barack Obama, oui, de Obama. L'envie de cesser de dépenser des sommes monumentales pour assurer la défense des Européens, là encore, sentiment très répandu aux États-Unis. Le climato-scepticisme, source de divergences majeures avec l'Europe. Encore une fois, une pensée bien ancrée dans l'Amérique profonde. Donc, faire une fixette sur Trump, qui serait responsable de tout, c'est une façon de ne pas regarder le sujet en face. Et ce sujet, il est plus sérieux, plus profond.
Parce que ce que ça veut dire, c'est que la relation Europe-États-Unis est donc durablement dégradée.
C'est possible. D'abord, dans 2 ans, hein, lors de la prochaine présidentielle aux États-Unis, Trump peut tout à fait succéder à Trump, la probabilité même non négligeable. Et même si l'opposition démocrate l'emporte, rien n'assure que le beau fixe reviendrait avec les Européens. En fait, il est peut-être temps que l'Europe accepte cette nouvelle réalité, qu'elle fasse son deuil, d'une certaine façon, de cette longue alliance qui a été scellée dans le sang de la plage d'Omaha Beach. Il est temps de devenir majeur, dans le sens je deviens autonome, je cesse de compter sur le grand frère américain pour me protéger, je vis ma vie, quoi. Je prends mon destin en main, c'est d'ailleurs une formule qu'emploie régulièrement Angela Merkel. Bâtir sa propre capacité de défense face à la menace sécuritaire russe, face à la menace commerciale chinoise, et ne plus compter sur Washington que pour des partenariat bien précis, par exemple sur la lutte antiterroriste. Emmanuel Macron en parlait d'ailleurs cet après-midi. Pour une union de 28 pays, peut-être bientôt 27 après le Brexit, c'est un défi immense, mais c'est la seule façon de continuer à peser. Et pour cela, il faut peut-être d'abord admettre que Trump ou pas Trump, les États-Unis s'éloignent de l'Europe, comme dans la dérive des continents.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Nous, on reste ensemble pour le téléphone sonne. Ne bougez pas, ne changez rien. On s'occupe de tout. Éloignez les chats et à tout de suite.